France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Les carnets reviennent avec quelques nouveautés. On dit ça à chaque fois, mais c'est vrai, à la rentrée, indicatif actualisé, comme vous l'entendez, puis un esprit propre, un journal des solutions avec plus de variété d'expériences issues de toutes les régions et toujours des infos depuis les départements traversés par le jeu des 1000 euros. On commence cette semaine par les Côtes d'Armor, avant les Ardennes, puis un retour en Bretagne dans le Finistère et le Morbihan tout à l'heure. Anne Cavard nous présentera son association qui répond au nom de « On n'est pas que des cajots », mais tout de suite direct très morale dans les Côtes d'Armor pour profiter d'un bol de lait et d'air pur.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Pascal Coustet, bonjour.
Bonjour.
Pascal, producteur de lait à Saint-Vrand, gérant de la SICA L'Esprit d'Éthique. Oh, il faudra expliquer lait comme le lait, évidemment. Et puis, il y a une éthique qui donne... des millions de briques de lait produites aujourd'hui sous le nom de l'éthique, L-A-I-T-I-K. Alors, c'est la première fois qu'on parle, je crois, d'une SICA, c'est une société d'intérêt collectif agricole.
C'est ça. C'est un mix un petit peu entre une coopérative et une société anonyme. Une coopérative ne peut travailler qu'avec des adhérents et une SICA peut travailler avec tous les partenaires qu'elle veut.
Que s'est-il passé pour que vous réunissiez une cinquantaine de producteurs autour de ce projet ?
Alors l'initiative, c'est une cinquantaine de producteurs qui ont reçu un jour un courrier du repreneur de leur industriel. Le fait qu'il n'ait pas signé d'engagement auprès du repreneur, 18 mois après la réception du courrier, ils étaient virés, tout simplement. Ils n'avaient plus personne pour ramasser leur lait. Donc ils ne se connaissaient pas, c'était des producteurs qui étaient disséminés sur tout le territoire breton. Ils se sont recensés, ils ont essayé de comprendre un petit peu quelles avaient été leurs motivations pour refuser cette forme d'intégration qui leur était proposée. Et à l'issue de cette concertation, donc, ils ont décidé de créer la SICA, qui a mis 5 ans pour boucler un plan de financement pour donner naissance à l'outil industriel dont ils sont propriétaires aujourd'hui.
Ils sont partis d'un bon sens qui me plaît bien, parce que quand on se lance dans ce type d'aventure en autonomie, il faut créer une charte. Et là, vous dites, c'est pas la peine d'avoir une charte, d'instaurer un label. Nous, on est parti d'un bon sens. Respect des sols, valorisation des fourrages, céréales de la ferme sans OGM, etc., etc.
L'agriculture, normalement, c'est d'abord du bon sens. À force de cumuler des restrictions, on ne sait plus à quel sens jouer. Au niveau de la SICA, chaque producteur avait intégré des notions de gestion et avait une ouverture d'esprit marginale, certes, mais qui avait du bon sens. Par exemple, la culture du maïs, le maïs est une plante qui est un puits de carbone, c'est une plante qui produit une biomasse importante. Et les producteurs de la SICA donc, se disent, là, c'est le maïs étant une céréale, on va valoriser la graine au niveau de l'alimentation de nos vaches et on va restituer donc le reste du fourrage au sol pour enrichir nos sols en humus, par exemple.
Non, mais je suis convaincu. Et en plus de ça, vous prouvez, en dehors du débat conventionnel bio, méthode respectueuse des sols, et on n'est pas obligé d'entrer dans une étiquette pour dire, bah voilà, on peut faire correctement et respectueusement les choses, sans abîmer notre planète qui a besoin de respect, comme on le sait tous. Et c'est au bénéfice de chacun. Sauf que il a fallu que chaque producteur mette de sa poche pour créer la PME.
Tout à fait. Ils ont investi de leur poche, ils ont tout donné. C'était une guerre. Ils ont retroussé les manches et puis le but à la fin, c'est de pouvoir livrer le meilleur de leur travail sans opposer un modèle par rapport à un autre. On n'a pas spéculé sur un produit de première nécessité. On a monté un outil qui respecte le produit, donc avec un lait technologiquement différent et avec un goût différent et qui est vraiment intègre. Tout ça donc dans un emballage banalisé carton, accessible à tout le monde. Donc, ce qui fait que non seulement ils mettent en valeur leur savoir-faire au niveau de leur exploitation, ils livrent un produit de qualité, légèrement plus cher qu'un premier prix, mais accessible à tous les consommateurs, quel que soit leur budget.
C'est-à-dire quel est le prix d'une brique de lait ?
Une brique de lait avec bouchon en demi-écrémé, c'est aux alentours de 75-78 centimes. Parce que le bouchon coûte 10% plus cher qu'une brique sans bouchon. Voilà, donc il n'y a aucune spéculation, il n'y a pas d'actionnaire à rémunérer, il n'y a pas de marque commerciale, il n'y a pas de communication, on travaille en circuit vraiment très court.
Et on peut trouver où les briques laitiques ?
On les trouve dans tout le Grand Ouest, on est diffusé aussi dans les Pays de Loire, dans le Poitou, on a quelques demandes dans la région parisienne. On produit 1 million de briques par mois aujourd'hui et on a encore un petit peu de production à valoriser.
Mmh. Et plus de 650 emplois ont été créés en amont et en aval ?
Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a une cinquantaine de producteurs laitiers associés à la structure qui génèrent de l'emploi en amont des exploitations agricoles. On a toute la logistique par rapport à l'entreprise. On a la fourniture d'énergie, on a la fourniture d'emballage. Donc, c'est du carton, c'est du polyéthylène, de l'aluminium, 100% recyclable. Il y a la logistique vers les centrales d'achat, vers les magasins. Il y a les magasins. C'est toute une chaîne d'emploi autour de l'entreprise.
Mmh. Et dernière chose, Pascal, est-ce que ça vous a permis de prendre enfin des vacances ?
Non.
Zut.
Bon, non, alors c'est tellement passionnant que c'est vrai que c'est un plaisir de relever des défis tous les jours.
Mmh. Bravo. L'éthique.bzh, vous allez trouver le lien à nos pages, le siège hein, de la SICAIA, Trémorel, pour cette belle initiative regroupant cette cinquantaine de producteurs. Bon vent à vous. Merci Pascal.
Merci à vous aussi.
France Inter, carnet de campagne.
Un internaute écrit sur la page Facebook du Cri de l'Ormeau, c'est un peu l'officiel des spectacles du 22. 22, les Côtes d'Armor. Le Cri de l'Ormeau qui fait plus référence au coquillage qu'à l'arbre, même s'il doit bien en avoir du côté du tombeau de Merlin en forêt de Brocéliande, est un agenda culturel né en 1999. Il a donc tout juste 20 ans et sa longévité est à saluer, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ses versions papier, web et aussi smartphone sont portées par une équipe de passionnés par leur mission, comme nous l'écrit Sophie. Les magazines, vous pouvez les consulter en ligne, en permanence, et la revue a même sa version télé, Télé Ormeau. Le plus dans toutes les rubriques proposées tient aux acteurs culturels et aux lieux de culture qui ont droit également à une rubrique spécifique. Le site c'est cridelormeau.com, il y a un lien à nos pages d'émission, et puis il y a aussi une page Facebook, donc Cri de l'Ormeau, Anne Cavard. Bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Anne, vous êtes cofondatrice avec Valérie de l'association On n'est pas que des cajots, donc vous êtes autre chose, par exemple des palettes ?
Oui, on est des palettes, on est des bouteilles plastiques, on est des chambres à air, on est des panneaux de signalisation, on est des fûts, on est de tout.
Comment ça, vous récupérez des panneaux de signalisation ?
Oui, alors on ne les emprunte pas, hein,
oui.
On nous les donne. Hein. Ce sont des panneaux en fin de vie.
D'accord.
On ne prend en fait, nous, que des matières et matériaux en fin de vie. S'ils peuvent servir, c'est pas pour nous.
Et tout cela est né d'une, ça date de 2013, d'une prise de conscience, des ravages, des déchets qui s'accumulent partout.
Oui, c'est ça. Et puis l'envie de bricoler, l'envie de faire des choses par soi-même, l'envie de voir la fin, en fin de journée, le travail qu'on a réalisé, ça n'a pas de prix. Et on a tellement aimé qu'on a voulu transmettre ça, en fait, à d'autres personnes qui auront envie d'avoir la même démarche que nous.
La création est facilement contagieuse ?
Oui, si on se libère un petit peu de tous les carcans habituels, oui. Et c'est compliqué, hein, mais c'est possible.
Alors tout le monde à Saint-Brieuc peut venir au siège de l'association, profiter de stages, d'ateliers, et que deviennent ensuite les objets créés ?
Alors on a pour les particuliers effectivement des ateliers dans notre local à Saint-Brieuc. Ils réalisent leurs projets, on n'impose rien. On est sur de l'utilitaire essentiellement. Par contre, nous, on se déplace dans les structures, associations, établissements scolaires, entreprises, pour faire des ateliers dans ces structures. Et les objets, bien sûr, réalisés restent aux participants.
Et alors, ce qui relève des déchets réutilisables sont apportés directement à votre siège par des particuliers ?
On peut avoir ça, effectivement. On a aussi quelques entreprises qui font appel à nous pour voilà, diverses matières, matériaux, avant de les emmener à la déchetterie. Donc on a de tout, des particuliers et des entreprises.
Je vois qu'on peut même apprendre chez vous la soudure à l'arc.
Oui. Ah oui, c'est un vrai plaisir ça de pouvoir... Non, c'est vrai, c'est vraiment d'être... C'est comme si on était sous l'eau en fait quand on soude. On a la cagoule là de soudage, on est dans notre petite bulle, dans notre monde, et c'est vraiment valorisant d'apprendre à souder et d'y arriver surtout.
Bah oui, mais cette technique implique l'intervention de professionnels.
Alors on fait appel bien sûr à des personnes comme là, la soudure, c'est un collègue de Nerf Névé qui vient... ponctuellement encadrer ces stages, parce qu'il faut aussi investir dans du matériel. Les postes à souder, ça coûte relativement cher. Donc voilà, on ne peut pas tout mener de front.
Alors une explication sur Nerneuvet, dont le slogan est « Construisez votre autonomie ».
Oui, c'est un collègue qui propose en fait la réalisation d'éoliennes pour les particuliers. Alors là, sous une forme assez longue d'une semaine de stage, de faire des fours dans des bouteilles de gaz, de faire plein de choses différentes, des instruments de musique comme les butaphones par exemple, inspirés des hangs. Voilà, essayer de vivre un peu autrement, quoi.
Les butaphones inspirés des hangs.
Oui.
Donc ce sont les percussions fermées un petit peu qui ressemblent à des carapaces de tortue.
C'est ça. Hein? Ça fait vraiment ce son, hein. C'est impressionnant. Par contre, on doit accorder cet instrument avec une disqueuse. Donc c'est assez rigolo quand même. Voilà, c'est particulier.
Ouais. Vous préparez une grande foire exposition des Côtes d'Armor, 14 au 22 septembre.
Voilà, on participe, en fait, c'est l'agglomération qui nous a sollicité pour mettre en place une petite scénographie de l'espace d'accueil. Ça va nous permettre de valoriser tous les réparateurs et les acteurs du réemploi du territoire qui vont prêter qui une chaise pour le tapissier, qui un broyeur pour le réparateur, voilà. Et nous, on va mettre ça en scène sous la forme d'un salon-atelier et d'un jardin pour aussi sensibiliser le grand public, montrer que ça peut être beau, susciter de l'envie, susciter plein de choses pour que après chacun se saisisse du sujet et voilà, soit autonome aussi. Mmh. Mais on ne sait pas tout faire, on a besoin de réparateurs présents sur le territoire.
Mmh. C'est la première fois que je tiens une conversation avec une cagette.
Et alors, c'est comment?
Eh ben, c'est drôlement agréable. Et c'est pas langue de bois. Bon, je vais arrêter là. Je vous remercie beaucoup, Anne. Le site, c'est decajot.fr. Il y a une page Facebook également sous le titre Decajot. Oui. Belle journée à vous, Anne.
Merci à vous aussi. Au revoir.